Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Prévert et nous avons le plaisir d'accueillir un invité. Présentez-vous s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Constant, je suis chargé d'études au CPIE et je suis là aujourd'hui pour vous parler des insectes.
Quel travail vous faites
au CPIE,
je suis chargé d'études environnement, c'est-à-dire que j'étudie les insectes, c'est une passion depuis très longtemps, mais j'observe toute la nature. J'étudie aussi les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, ça arrive. Voilà, donc je fais, selon la mission, je peux faire un peu sur tout et n'importe quoi.
Combien d'heures vous faites par semaine ?
Quand je travaille au bureau, et de manière générale, c'est du 35 heures semaine. Mais vu que je fais du terrain, des choses comme ça, ça se peut que je commence très tôt le matin, par exemple les inventaires sur les oiseaux. La semaine dernière, j'ai fait un inventaire sur les oiseaux, je me suis levé... J'étais sur le terrain bien avant le lever du jour. Et quand je fais les papillons de nuit, je suis dehors jusqu'à 4h, 5h du matin.
Et dans une journée normale, c'est combien de temps
7h. 7h dans une journée.
Bonjour.
Bonjour.
Comment différenciez-vous les insectes des petites bêtes ?
Alors c'est très simple. Un insecte, c'est trois parties. Une tête, un thorax, un abdomen, six pattes, une paire d'ailes, ou pas du tout d'ailes. Tout le reste, ce sont des petites bêtes.
Ça veut dire qu'un escargot n'est pas un insecte.
Un escargot n'est pas un insecte.
Comment avez-vous eu cette passion ?
Alors, depuis tout petit, dans le jardin de mes parents, j'adorais regarder les plantes, les petites bêtes, les insectes, tout ce qu'il y avait. Et un jour, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont des noms ? Donc, je me suis renseigné, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un livre, puis deux livres, puis trois livres, etc. Et puis, je me suis passionné pour les insectes.
Vous pouvez nous expliquer comment différencier un mâle et une femelle sur des insectes ?
Alors, c'est très variable. Par exemple, chez les mouches, c'est selon si les yeux sont collés ou pas. Les deux yeux, chez le mâle de la mouche, vont être collés, chez la femelle, ils vont être très espacés. Chez certains insectes, j'en ai ramené quelques-uns, chez certains insectes, on peut voir, il y a des dimorphismes très importants qui apparaissent. Par exemple, chez un insecte qu'on appelle le lucane, ici on voit qu'il a des grosses mandibules devant lui, et là, la femelle n'en a pas du tout. Il y a plein, c'est des critères qu'on apprend au fur et à mesure de l'apprentissage. C'est très variable selon les espèces et les familles.
Vous avez vu des grosses araignées ?
Des grosses araignées ? On va reprendre l'une des premières questions, c'est très intéressant. Une araignée, ça a combien de pattes ? Ça, vous le savez tous. Ça a 8 pattes. 8 pattes. Un insecte, c'est 6 pattes. Une araignée, c'est pas un insecte. C'est ce qu'on peut dire une petite bête. La plus grosse araignée que j'ai vue dans ma vie, c'était pendant un voyage en Guyane. C'est la plus grosse araignée du monde. On l'appelle la Theraphosa le blondi. Vous voyez le midi que vous mangez dans votre assiette ? Le midi quand vous mangez dans votre assiette ? La Theraphosa le blondi, c'est une araignée qui est grosse comme l'assiette. Elle est grosse comme ça. Et elle fait des terriers dans le sol. Elle peut manger des souris, etc. C'est la plus grosse que j'ai vue dans ma vie.
Mais les araignées de mer, elles sont pas plus grandes.
Très intéressant. Araignée de mer, c'est un nom qu'on lui donne. Est-ce qu'une araignée, ça a des pinces ?
Non. Ça a des crochets.
Ça a des crochets, ce qu'on peut appeler des crochets. Mais les araignées de mer, ça a des pinces. C'est un nom qu'on leur donne parce que ça ressemble à une araignée, mais c'est un crabe, c'est un crustacé.
Oui. Est-ce qu'elle est venimeuse, l'araignée que vous avez vue en Guyane ?
Pas du tout. C'est très impressionnant, ça a des très gros crochets, mais c'est pas du tout venimeux, c'est inoffensif pour l'homme. Le seul petit quelque chose de dangereux que ça peut avoir, c'est que ça a des poils urticants, qui peuvent gratter. C'est tout. Sinon, on craint rien du tout. C'est juste très impressionnant, j'avoue.
Vous pouvez nous dire différentes sortes d'insectes que vous avez vues ?
Différentes sortes, c'est très compliqué, j'en ai vu énormément. Depuis que je fais ça, C'est pour ça que j'ai ramené... Moi, je me passionne principalement pour deux grandes familles. Ce sont les coléoptères. Donc tout ce qui comprend les coccinelles. Tout à l'heure, j'ai entendu cétoine. J'ai entendu tout ça. Là, par exemple, tout ce qui est brillant dans la boîte que vous pouvez voir, ce sont des coléoptères. Voilà. Moi, je me passionne surtout pour ça. Et je vais me passionner aussi pour d'autres choses que vous connaissez sans doute. Ce sont les papillons. Les papillons. Alors, moi, c'est ce que j'étudie principalement, parce que c'est ce qui me passionne. C'est complètement des vrais. Donc j'en ai, c'est toutes les espèces. Tout ça, c'est des papillons qu'on peut trouver en Sarthe, bien évidemment. C'est ce que j'étudie pour ma part. Mais sinon, je fais tous les insectes qui existent, que ce soit les abeilles, les mouches, etc., etc. Encore d'autres, parce que les papillons, on pense aux papillons de jour, mais évidemment, certains qui sont pas connus, c'est les papillons de nuit. On n'imagine pas. On peut pas imaginer qu'on a ça en Sarthe. Hein? Tout ça, ils viennent pas de la Flèche, mais je les ai déjà vus à la Flèche, ceux-là.
Oui, moi aussi.
Par exemple. Voilà. Le plus gros que vous voyez, on l'appelle le grand paon de nuit. C'est le plus gros papillon qu'on a en Europe.
Mais alors ça,
je l'ai déjà vu à l'école.
Comment vous faites pour les attraper?
Alors pour les attraper, quand je les attrape, parce que ça c'est pas tout le temps, un filet à papillon, c'est le plus simple. On l'abîme pas, on le blesse pas, rien du tout. Avec ça, on peut le regarder. Éventuellement, derrière, on peut le mettre dans une boîte. Et après, on le relâche. Moi, dans certains cas, je les garde, effectivement, pour faire des boîtes, comme vous voyez. Parce que derrière, il y a un aspect scientifique. Derrière, toutes ces données-là, on les met sur des bases de données qui servent à la science pour tout le monde. Certaines espèces d'insectes, malheureusement, on ne peut pas les déterminer. Vous voyez, dans la boîte, il y en a des tout petits. Ceux-là, pour les déterminer, c'est obligé de les prendre, malheureusement de les tuer, et de regarder sous une loupe, avec un très très fort grossissement pour pouvoir connaître l'espèce. Et ça a un but scientifique, certes, mais ça a aussi un but pédagogique, comme aujourd'hui. Je vous les ai ramenés parce que ça sert aussi, ça permet de voir la diversité qu'on peut avoir.
Comment vous faites pour garder le papillon parfaitement comme il était, pour pas que la peau se décompose, ni...
Au sec et à l'abri de la lumière. Et c'est tout.
Comment donnez-vous à manger aux insectes correctement?
Un insecte, ça se débrouille complètement pour manger. Ils ont chacun des régimes alimentaires différents. Vous connaissez peut-être certains. En général, nous avons des insectes qui mangent des plantes. Ça, c'est le plus connu. De la plante, ils vont manger la feuille, le bois, mort ou vivant. Et ils vont manger aussi le nectar. Le nectar, le pollen, etc. On a les insectes qui, eux, mangent de la viande. Donc tous les décomposeurs, on va appeler ça, dès qu'il y a un animal mort, etc., dehors, parmi les mouches, certains coléoptères vont manger cette viande. On a aussi les hématophages. Hématophages, ils mangent du sang. Les moustiques, les puces, les tiques, etc. Nous avons les coprophages. Eux, ils servent à décomposer les déjections des animaux, que ce soit les bouses de vache, le crottin de cheval, etc. Un animal, ça se débrouille tout seul.
Comment donner du soin à un insecte qui est blessé, par exemple, quand il a une patte cassée?
Un insecte avec une patte cassée, il va se débrouiller tout seul. Les insectes, là, on fait, c'est très intéressant à chaque fois que les enfants, j'adore, c'est ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que on pense que tous les êtres vivants sont comme nous. Sauf qu'un insecte, 6 pattes. Nous, on en a 4. On ne peut pas du tout les comparer. Nous, notre viande, elle est à l'extérieur et nos os sont à l'intérieur. Les insectes, c'est l'inverse. Ils ont une carapace, un exosquelette, et leur système pour vivre est à l'intérieur d'eux. Un insecte avec une patte cassée, il vit très bien. Sans problème. On ne peut pas lui donner du soin parce que c'est très résistant. Et de manière générale, un insecte, ça a une durée de vie très très courte en plus. Ça, faut le penser. Ça a une durée de vie très courte. Et un insecte blessé aussi, on est sur quand même la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'un animal blessé dans la nature, eh ben, il sera plus faible et il se fera manger par des proies, des prédateurs. Par des prédateurs.
L'escargot qui avait la coquille cassée, parce que ça fait sûrement fait mal tout seul. Et j'ai eu l'idée de le mettre dans une grande boîte avec mes autres escargots que j'ai relâchés pour qu'il s'aide à se remettre tranquillement sa coquille correctement et pour qu'il soit tranquille, pas pour se faire manger. Est-ce que c'était une bonne idée?
S'il a pu reconstituer sa coquille ou en faire une pellicule avec son mucus, sa bave, s'il a pu se protéger, c'est très bien.
Il a fait une espèce de truc blanche.
Parfait.
Combien avez-vous fait de recherches pour en arriver là?
De recherches, c'est-à-dire d'études?
Oui.
D'études. En études, j'ai commencé depuis le bac. J'ai fait un bac gestion des milieux naturels et de la faune. Ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Et j'ai fait deux licences, une en management environnemental et une en biodiversité. Mais pour en arriver là, c'est aussi beaucoup de travail personnel et de passion. Je compte pas le temps que j'ai passé dans la nature, à regarder les insectes, à les observer, à les déterminer, etc. Ça, c'est pas mesurable.
Comment vous faites si l'insecte est habitué à être avec vous pour le lâcher?
Eh bien, vous avez recommencé l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que vous avez pensé que l'insecte était comme l'humain, un chat, un chien, qui va prendre des sentiments pour nous. Ça n'existe pas chez les insectes. Un insecte, dès qu'on va le lâcher, il ne sera pas attaché à nous, il va partir. Ça arrive que des insectes se posent sur nous en été, genre des papillons par exemple. Alors, ils viennent boire notre sueur parce que c'est plein de sels minéraux. Mais il ne va pas s'attacher à nous, il ne vient pas nous faire un câlin, il vient juste boire notre sueur.
Citez-nous quelques espèces d'insectes.
Quelques espèces d'insectes. Bon, on va prendre la boîte. Alors, nous avons, en très gros là, le lucane cerf-volant. On a la cétoine dorée. On peut avoir les cigales, les bourdons, les charançons, les grands capricornes, tout ce qui est longicorne, les petites biches, c'est très rigolo comme nom. Les coccinelles. Je peux en énumérer comme ça très très longtemps, mais on peut le faire si vous voulez, on peut continuer un peu.
C'est comme vous voulez.
Ah ben non, c'est comme vous voulez vous, c'est votre interview.
Oui.
Encore un petit peu. On va prendre une autre boîte. Attention, ne touchez... S'il vous plaît, ne touchez pas du tout la table. C'est très fragile et si ça tombe, je vais pas être content. Merci. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé d'un voyage que j'avais fait en Guyane. Je vous ai ramené quelques papillons pour vous montrer. Donc là, on est sur des papillons de nuit. Parmi les papillons de nuit, on a les sphinx. On peut avoir les saturnidés. Ça fait partie des très gros papillons, comme le gros papillon que je vous ai montré tout à l'heure dans la boîte. Là, c'est tout ce qui est macaon. On peut avoir tout ce qui est bombyx. Les mantes, les cirfs, ça fait partie de la famille des mouches, ça ressemble à des guêpes. On a les guêpes, tout simplement, les frelons. Voilà, il y en a énormément.
Quel est l'insecte le plus gros quel est l'insecte le plus gros du monde?
Alors, j'ai un doute du coup si c'est l'insecte ou si c'est juste le coléoptère le plus gros du monde, mais je crois quand même que c'est l'insecte. Il ressemble un peu à celui-là. C'est un longicorne, la famille des cérambycidés. Il fait... vous voyez ma main? Un peu plus gros.
Et c'est quand même un insecte.
Et c'est un insecte. Parce qu'il a 6 pattes, il a 3 parties, tête, thorax, abdomen, et il a une paire d'ailes. Et une paire d'antennes.
Et est-ce que vous l'avez dans genre une boîte comme là? Est-ce que vous l'avez comme insecte le plus gros du monde là?
Non, je l'ai pas. Ah. J'ai même pas eu la chance de le voir quand je suis allé en Guyane.
Ah, même pas.
Est-ce que vous avez déjà rencontré une araignée venimeuse?
Oui. Araignée venimeuse, j'en ai déjà rencontré.
Et laquelle ?
La veuve noire. Je pense que ça vous parle tous. C'est une toute petite araignée. La veuve noire. Je l'ai pas embêtée, elle m'a pas piqué. Elle m'a pas mordu. On est restés bonnes amies et puis nos routes ont continué. Mais pas en Sarthe, je vous rassure.
Où ça ?
Dans le sud de la France.
Comment on différencie une guêpe à une abeille ?
Une guêpe, une abeille ? Une guêpe, une abeille. Une abeille va être toute poilue. Et une guêpe va pas avoir de poils. Mais les deux vont avoir ce qu'on appelle le corps de guêpe. Vraiment la différence entre la tête, le thorax, un corps très fin et puis l'abdomen qui grossit. C'est comme les, comme le frelon. C'est un peu la même forme. Le frelon est une grosse abeille, de toute manière. Le frelon est une grosse guêpe, excusez-moi.
Avez-vous beaucoup voyagé pour aller voir des insectes ou en ramener chez vous ?
Durant mes voyages, j'en ai ramené que pour la Guyane. J'étais parti en Guyane, c'était un voyage d'études pendant mon BTS. Sinon, à titre personnel, j'ai voyagé dans presque toute la France pour observer des insectes. Je suis aussi allé en Belgique et en Allemagne pour ça.
Depuis combien de temps faites-vous ce travail ?
Ce travail-là, au CPIE, vraiment, où je travaille quasiment tout le temps avec les insectes, j'ai commencé il y a 2 ans. Avant, je travaillais pas très loin d'ici, à Courcelles-la-Forêt, j'étais bûcheron dans une forêt. Encore avant, j'ai travaillé dans une association de sensibilisation à l'environnement. Et encore avant, j'ai travaillé en fédération de pêche.
Est-ce que vous avez ramené des insectes et vous les avez gardés chez vous ?
Vivant ou mort ?
Vivant.
Vivant. Alors ça m'arrive de le faire quand je trouve des larves dans la nature. Ça m'arrive de trouver des larves et c'est pas toujours évident de savoir c'est quelle espèce. Donc je les garde, je les élève et je sais c'est quelle espèce. Dès que je sais ce que c'est, si c'est la bonne saison, je les relâche dans la nature là où je les ai trouvés.
Quel est le plus joli insecte que vous avez trouvé ?
Pour moi, le plus joli insecte, enfin les plus jolis insectes, ce sont les ce qu'on appelle les carabes. Ce sont des coléoptères. C'est ceux que vous voyez qui sont tout brillants dans la boîte. Pour moi, c'est ceux-là les plus jolis. Et c'est parce que j'aime beaucoup les rechercher, les étudier, etc. C'est tous ceux qu'on peut voir au centre de la boîte. Il y a plusieurs espèces. On a le carabe à reflets dorés. On a là, par exemple, un carabe du sud. Celui-là, il vient du sud. Carabe hispanique. Là, on a un carabe qu'on peut trouver en Sarthe, par exemple. Le carabe coriacé, etc. Le carabe des bois, qui est là, etc.
L'animal blanc que vous avez, c'est une mante religieuse albinos ?
C'est une mante religieuse tout court. Les insectes, quand on les conserve dans une boîte comme ça, ça peut arriver qu'ils perdent leur couleur.
Donc et avant, elle était quelle couleur ?
Elle était verte.
Donc c'était une fille.
Parce que soit elles sont vertes, soit elles sont marron.
Soit elles sont vertes, soit elles sont marron. J'en ai déjà vu des roses aussi.
Oh. C'est un peu rare quand même.
Tu peux. Je sais pas. Mais je l'ai déjà vu.
Mais les roses, c'est des mâles ou des femelles ?
La couleur ne dit pas si c'est un mâle ou une femelle. La couleur chez un insecte va changer pour plusieurs choses. Un insecte va avoir une certaine couleur soit pour se protéger des prédateurs, soit pour être joli pour la reproduction. En général, ce sont les mâles qui sont colorés. Et puis après, ça peut différencier énormément la couleur. Chez un insecte, ça va être au niveau de la génétique. Là, on peut voir 2 insectes qui sont assez semblables, mais qui n'ont absolument pas la même couleur, alors que c'est la même espèce. On peut en voir un qui est quand même très brillant et l'autre qui est tout noir. Ça, c'est de la génétique. Ça bouge avec le temps et du coup, ils deviennent foncés.
Parce que nous, on croyait que les mantes religieuses marron, c'était les mâles et les vertes, les femelles.
Non, rien à voir.
Donc, comment on a la réponse ?
Comment différencier une mante religieuse mâle ou femelle ?
Mâle ou femelle, on peut différencier à la largeur de l'abdomen. À l'arrière, je vais vous montrer. Hop, on voit l'abdomen. On le voit de loin, mais on aperçoit.
C'est quelque chose qui est strié. Les mâles et les femelles, il y avait des espèces de cornes à l'arrière.
De cornes?
Oui.
À l'arrière. C'est possible que ce soit au moment de la reproduction. C'est ce qu'on va appeler l'ovopositeur. C'est ce qui va permettre à la femelle de pondre les œufs.
Alors ceux qui ont les espèces de cornes derrière, l'oppositeur.
Ovopositeur.
Ovopositeur, c'est les femelles.
Femelles, oui.
Et les sauterelles vertes, là, tu es quoi comme espèce?
Tu l'as dit toi-même. La sauterelle verte. Ouais. Très très grosse.
Ouais.
La grande sauterelle verte, on l'appelle.
Ouais.
Alors, il y en a plusieurs. On a la grande sauterelle verte, on a ce qu'on appelle les phanéroptères aussi. Mais en général, les très très grosses qu'on voit, c'est la grande sauterelle verte. Des fois, on ne s'est pas embêté à donner des noms, faut pas croire.
Nous, on a vu une sauterelle qui avait comme un couteau derrière.
Eh bien, c'était une femelle.
Une femelle?
C'est l'ovopositeur, encore une fois.
Ah oui.
Qui lui permet de pondre ses œufs.
Chez nous, on connaît les sauterelles normales, pure colossales et colossales, mais les vertes, on ne les connaissait pas avant.
Eh bien, maintenant, tu connais.
Est-ce que vous avez des sauterelles?
Chez moi?
Oui.
Non. J'ai une passion en été, c'est d'aller récupérer quelques grillons dehors et de les mettre dans une boîte au pied de mon lit pour quelques nuits parce que j'adore le chant des grillons. Mais je garde pas trop longtemps parce que ma copine elle est pas contente, ça l'empêche de dormir.
Bon, en même temps, c'est vrai que les grillons c'est très agréable à entendre.
Merci beaucoup, je le dirai.
Est-ce que vous avez des grillons qui portent chance?
Non.
Mais les sauterelles, vous en avez des mortes dans des boîtes? Comme les insectes là que vous nous avez montrés.
Non, car les sauterelles, pour la plupart, on peut les identifier directement sur le terrain. Avec juste une loupe ou des bonnes photos, grâce à un appareil photo ou un portable, tout simplement. Oui. On peut faire de très bonnes photos. Et grâce à ça, on peut les déterminer facilement sur le terrain, donc pas besoin de les garder.
Et vous en avez des photos?
Des photos, j'en ai plein.
Vous pouvez nous en montrer quelques-unes?
Pas avec moi, elles sont sur mon ordinateur, malheureusement.
Quel est l'insecte le plus méchant que vous avez vu? Enfin, si vous en avez vu un.
Méchant, il n'y a pas d'insecte méchant. Ils essayent juste de se défendre si on les embête ou si...
Ouais. Ils sont tous gentils.
Si manque de chance, on tombe dessus au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils vont nous piquer ou nous mordre, mais... J'ai jamais vu d'insectes méchants.
Ouais.
Quelle est la sorte d'araignée la plus venimeuse?
Je sais pas du tout. J'étudie pas du tout les araignées, comme je disais. J'étudie les insectes entomologistes. C'est mon métier.
Moi, j'ai regardé sur Internet et l'araignée la plus venimeuse, je crois, que c'est la... avec le popotin rouge.
La veuve noire.
Oui.
Je sais pas du tout, mais c'est possible, je sais pas. Tous les insectes qu'on appelle hyménoptères, donc tous les insectes guêpes, bourdons, abeilles, frelons, etc. Tous les insectes comme ça... ou un darve minimeux. Uniquement les femelles. Les mâles ne piquent pas.
Pourquoi les punaises ne sentent pas très bon quand on les écrase?
C'est un système de défense, tout simplement. Parce que si un insecte s'approche, si un animal, quel qu'il soit, s'approche pour le manger, il sent ça. Personnellement, ça ne me donne pas envie de manger. Un autre animal, je pense que non plus.
J'ai regardé sur une vidéo, je connais, il y a une mygale. Tu peux la porter sur la main et elle est poilue, elle est genre orange et noire. Elle a quand même des crochets mais elle fait rien. Comment elle s'appelle?
Je sais pas son nom en particulier parce que c'est très compliqué à déterminer les araignées. Toutes les mygales sont poilues. Toutes les araignées, si on les met sur la main, elles seront inoffensives.
Elle pique un peu sur les pattes.
Ça pique un peu sur les pattes, ce sont des crochets qui lui permettent de se tenir au mur, aux parois, etc. Mm. Mais sinon, c'est vraiment inoffensif. Si on les embête pas, évidemment.
Mais celle-là, elle a pas de poison, elle a rien pour se défendre.
Si, la mygale, elle a du poison.
J'ai regardé ma vidéo, elle a pas de poison.
Non, mygale,
non pas non, tout le temps.
Toutes les mygales n'ont pas de poison.
Ouais, tu vois, dans ses boîtes, il y en a qui n'ont pas de poison.
Vous êtes d'accord que les abeilles, quand elles piquent, elles perdent une partie de leur ventre.
Une partie de leur abdomen.
De leur abdomen qui fait qu'elles meurent.
Oui, les abeilles et les bourdons.
Mais beaucoup de personnes disent que les bourdons, ça pique pas. Mais ça pique.
Les bourdons mâles ne piquent pas. Les bourdons femelles, oui. Et pour les différencier, en général, on s'y frotte pas. Parce que pour différencier un bourdon mâle, un bourdon d'un bourdon femelle ou d'une abeille mâle, d'une abeille femelle, c'est le nombre de parties qui composent les antennes. Donc à l'œil nu, c'est très dur à voir. Donc en général, on ne les prend pas du tout dans la main. C'est plus simple.
Êtes-vous déjà fait piquer par un insecte venimeux ?
Plein de fois. Mais je suis toujours là, donc c'est que ça doit aller. Alors, je me suis fait piquer plein de fois pour la simple et bonne raison que je les manipule quand même parce que je sais que je ne suis pas allergique. L'un des seuls moyens de savoir si on n'est pas allergique à un insecte qui pique, c'est de se faire piquer. En général, on le sait tout de suite. C'est une réaction allergique qui est très, très, très réactive. Donc, ça pique, ça fait mal, et c'est tout. Mais voilà. Si vous croisez un insecte, vous ne savez pas ce que c'est, meilleure solution, pas le toucher. Point.
Mais vous avez dit qu'une abeille femelle, leur dard était venimeux, mais si elle nous pique, on ne meurt pas. Enfin, je veux dire.
Venimeux veut dire qu'il y a du venin. Venimeux ne veut pas dire qu'on va mourir. Donc il y a un venin qui fait que ça réagit, que ça va faire mal, que ça va piquer, ça va brûler, mais on va pas mourir, si on n'est pas allergique.
Mais pourquoi c'est que les femelles bourdons qui piquent et pas les mâles ?
Il y a très peu de mâles chez les insectes hyménoptères, donc abeilles et bourdons. Les mâles ne servent qu'à la reproduction, ils servent juste à féconder la reine, et ensuite il n'y en a plus. Après, ce ne sont que des femelles qui font les colonies, les sociétés des abeilles. Ce ne sont que elles.
Mais les mâles, ils ont bien un dard.
Les mâles n'ont pas de dard.
Ah, c'est que les femelles. Et c'est mortel.
Je l'ai déjà expliqué, c'est mortel que si on est allergique.
Donc tout ce qui pique, si, c'est mortel que si on est allergique.
C'est ça.
Comme les araignées, les bourdons, les guêpes, les abeilles.
Exactement.
Ok.
Comment vous faites pour différencier les abeilles mâles et femelles ? Parce que nous, on ne trouve pas la différence.
Alors, pour différencier une abeille mâle et femelle, il faut compter ce qu'on appelle des articles antennaires. Sur une antenne... Sur une antenne, là, c'est un frelon, mais c'est pour vous expliquer. Sur une antenne... Il y a plusieurs petits segments qui font que l'antenne est articulée. Il y en a un certain nombre chez les mâles et un certain nombre chez les femelles. Donc à savoir que à l'œil nu, c'est très compliqué à voir. Donc la seule astuce pour pas se faire piquer, c'est soit de prendre une loupe, de regarder, et là on sait que on craint rien, soit le mieux, c'est de pas du tout les toucher et on les laisse tranquilles, en général.
Connaissez-vous des insectes en voie de disparition ?
Oui, quelques-uns. On a un très bon exemple en Sarthe. On a un insecte qu'on appelle le pic-prune. C'est encore une fois, c'est un coléoptère, un scarabée, qui est assez gros. Qui est gros comme ça, qui est tout marron. Et lui, il vit dans les gros arbres morts qui sont creux à l'intérieur. On appelle ça des arbres à cavité. Et c'est un habitat qui est très particulier, ce qui fait que c'est très rare. Ce qui fait que cet insecte est très rare et du coup très très protégé. En Sarthe, on en a une assez bonne population, heureusement, mais qu'on surveille énormément, nous, le CPIE ou d'autres organismes en Sarthe ou en Pays de la Loire.
Comment vous avez fait pour avoir les insectes comme ça dans la boîte, morts ?
Je les ai préparés, je les ai naturalisés. Avec des aiguilles, avec des produits spéciaux pour les sécher, etc.
Ah oui, mais pour les attraper, ça devait être dur.
Non, parce que je connais leur mode de vie, je sais où les chercher, etc. Donc il y a des insectes qui sont plus ou moins faciles à trouver, que j'ai plus ou moins trouvés.
Et vous avez réussi à les planter dans le genre de clou là ?
Une épingle.
Ah, c'est pareil.
Pensez-vous faire ce métier toute votre vie ?
Toute ma vie, Peut-être, je sais pas, parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Mais ce qui est sûr, c'est que ça restera ma passion toute ma vie.
Du coup, est-ce que vous cherchez les insectes qu'en été? Parce qu'en hiver, il gèle, il pleut, il y a un mauvais temps, des fois.
Les insectes, on peut les observer toute l'année pour certains. Les papillons, par exemple, il n'y en a pas. Je reprends l'exemple des insectes que j'aime bien parce que justement, je peux les chercher toute l'année. Ce sont ces fameux carabes. Eux, on peut les voir toute l'année. Ils hibernent dans le bois mort. En forêt, dans certaines forêts, on peut aller gratter, soulever la mousse, regarder, etc. Et on peut les trouver assez facilement.
Quels sont les insectes les plus faciles à trouver quand il fait froid?
Je viens de les montrer, ce sont les carabes, justement. Et en hiver, c'est vraiment en forêt qu'il faut chercher, sinon on ne trouvera rien.
Une fois, dans notre classe, on avait trouvé une montre religieuse enceinte, mais elle a, on l'avait relâchée ou elle n'a pas survécu?
Non, non. En fait, on l'a relâchée au moment où elle était morte.
Oui, on l'a relâchée au moment où elle était morte, et après on en a eu une autre qui est morte, et donc on l'a enterrée. Et donc en fait, elle était encore vivante, mais elle avait mal, alors on a préféré l'enterrer. Préfère l'intérêt qu'on la voie bien souvent, voilà.
Un insecte, qu'on le trouve vivant ou mort, si on n'en fait rien, on le met dehors et il fera sa vie. S'il est déjà mort, il se fera manger par un prédateur ou voilà.
La menthe religieuse, la deuxième qui était morte, c'était ma menthe religieuse. Je l'avais appelée Tokyo et j'avais fait un petit terrarium dans une boîte à chaussures. Mais malheureusement, elle est décédée quand je refaisais son terrarium par quelqu'un qui s'est fait pousser par quelqu'un et qui malheureusement l'a écrasée.
C'est très fragile, donc il faut quand même faire attention. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai ramené des boîtes, mais je surveille depuis tout à l'heure que personne ne shoote dedans.
Quel est l'insecte le plus rare que vous avez trouvé ou vu?
Il n'y en a pas vraiment des très rares. Ça va être rare, mais au niveau d'une localisation. Par exemple, au niveau de la Sarthe, il peut y avoir des espèces plus rares que d'autres. Cette année, je suis très content, par exemple, d'avoir revu un papillon qui n'avait pas été vu en Sarthe depuis 30 ans.
Ah oui, bah c'est qu'il doit être vraiment rare.
La mélitée orangée, il s'appelle au cas où. C'est un papillon tout orange, très joli. Je l'ai pas, hein, je l'ai laissé tranquille.
Enfin oui, à peu près, à quel âge avez-vous eu cette passion? Quand vous étiez petit, mais à peu près à quel âge?
Que pour les insectes ou pour la nature en général?
Pour, en partie, la nature.
Depuis que j'ai une conscience, je pense. Donc depuis que j'ai 4-5 ans.
C'est quoi l'insecte le plus rare du monde?
C'est très compliqué comme question. Un insecte... rare, il y en a...
Je vais dire plutôt de la France, ce sera peut-être plus facile de la France.
Ça va être pareil. Au niveau de la France, on en découvre tous les ans des espèces. Donc on va découvrir une nouvelle espèce, on va se faire, tiens, elle est toute seule, c'est la plus rare, puis l'année d'après, etc., on va en trouver une, etc., etc., etc. Il y a des espèces, on sait, qui sont en voie d'extinction, hein, au niveau de la France, etc., mais...
Et c'est lesquels insectes en voie d'extinction?
Au niveau de la France?
Oui.
Alors, ils sont pas forcément en voie d'extinction, ils sont tout du moins en danger d'extinction. Leurs populations sont très vulnérables. C'est le pique-prune, c'est un gros coléoptère. C'est aussi la rosalie des Alpes. C'est un longicorne assez gros, c'est aussi de la famille des coléoptères. Il est tout bleu, un très très beau bleu. Il y a un papillon aussi qui est tout vert, il s'appelle l'Isabelle. Il est très joli.
Et est-ce que vous avez... est-ce que vous avez le coléoptère que vous nous avez parlé bleu?
Non, je n'ai pas d'espèces. Ce sont des espèces qui sont protégées.
Ah.
Donc pour les manipuler, pour les avoir, etc., il faut des certificats de détention pour prouver qu'on est apte à pouvoir manipuler ce genre de choses.
Okay.
Si on manipule des espèces protégées ou autres, on peut avoir des amendes. Et j'ai pas envie, je travaille dans la protection de l'environnement quand même, ce serait dommage.
Vous avez déjà pris des petits insectes dans votre main et vous avez, en fait, quand vous les avez tellement ils étaient fragiles, vous les avez tués.
Jamais, parce que je mets un insecte dans ma main quand je sais que je peux le manipuler avec ma main. Sinon, je le mets dans une boîte.
Quel est l'insecte que vous avez réussi à capturer le plus facilement ?
Plein. J'en ai pas un en particulier en tête. Les papillons, c'est assez simple, avec un peu d'entraînement, avec le filet à papillons.
Ah, et aussi, je voulais dire un truc. C'est lequel insecte que vous trouvez le plus joli ?
Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Je l'ai montré. Ça devait être le carabe à reflets dorés.
Ah oui, nous, on a trouvé des scarabées dorés.
Ça, c'est, c'est les cétoines dorées, c'est ça ?
Ouais, mais il fait le mort. C'est lui. Il est très intelligent.
En Amazonie, ils sont en train de faire des reproductions de caïmans. J'ai oublié lequel, mais en tout cas, ils sont en train de faire des reproductions de caïmans.
Des reproductions de caïmans ?
C'est des grands crocodiles.
Le caïman ? C'est la différence entre l'alligator et le crocodile ? Oui, c'est caïman pareil. C'est une blague. Je ne savais pas, mais c'est bien s'ils font ce genre de programme de reproduction.
Dans un magasin, ils vendent un truc où on peut faire reproduire des triops. C'est des anciens dinosaures. C'est des sortes de petites bêtes.
Je vois très bien, j'avais ça quand j'étais petit.
Chez moi, j'en ai des pour triops. Mais sauf qu'on va les faire l'été prochain parce que là, c'est plus l'heure, il fait un peu trop froid. Parce que c'est sensible.
Oui.
Très sensible.
Citez-nous, qu'est-ce qui vous reste en insecte à avoir ?
À voir ?
Ouais, à voir.
Alors, c'est une très bonne question parce que depuis le début, je me suis posé une question moi aussi. Vous êtes curieux de tout, mais vous ne m'avez pas demandé il y a combien d'insectes ? Combien peut y avoir d'espèces d'insectes ?
Des trilliards. Des milliards.
Dans le monde, on en connaît 1,3 million d'espèces. Et on sait qu'on ne les connaît pas toutes. On sait qu'on en découvre à peu près entre 5 et 10 000 par an. Donc on sait qu'on va encore en trouver, etc. On estime qu'il peut y en avoir beaucoup plus. On estime peut-être entre 5 et 80 millions le nombre d'espèces d'insectes dans le monde. D'autres choses, en France, on est à 40 000 espèces d'insectes.
Ah oui.
En Pays de la Loire, on a à peu près 10 000 espèces. Et en Sarthe, on est à presque 5 000 espèces. Dans ma vie, je pense avoir vu 2 000 espèces.
2000.
Donc,
c'est
pas beaucoup. Donc, on est à presque 5 000 espèces d'insectes en Sarthe. Donc, je suis loin encore d'avoir tout vu. J'ai encore un peu de travail.
Est-ce que vous avez un but d'avoir au moins 5 000 espèces ? Ou même peut-être plus ?
Non, pas spécialement. Parce que j'aime bien justement... Je ne suis pas dans l'objectif de tous les voir, mais plutôt de connaître ceux que je vois et de savoir leur mode de vie, leur habitat et comment les protéger.
Est-ce que les triops sont des insectes ?
Les triops ne sont pas des insectes. Je connais pas dans quelle famille, grande famille ils sont, mais quel ordre d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Peut-être un crustacé, je sais pas.
Je crois que les triops, ce sont des anciens dinosaures qui vivaient dans l'eau. Et je crois que c'est des crustacés.
Oui, c'est pas des dinosaures. C'est peut-être de l'époque des dinosaures.
Oui, oui. C'est l'époque des dinosaures qui sont à peu près... Ils sont très vieux. Il y a très longtemps qu'ils existent sur Terre, au moins à la naissance de la Terre. C'est comme ça.
Peut-être un peu moins.
Oui, peut-être un peu moins, mais pas loin.
Les escargots, si c'est pas des insectes, c'est quoi en fait ?
Des mollusques.
Des
gastéropodes.
Comme les limaces.
Gastéropodes, ça veut dire estomac sur pied.
Et les mille pattes, ça c'est des insectes. Comme les chenilles.
Tu l'as dit toi-même. Comment ça s'appelle ce que tu viens de dire ?
Les mille pattes.
Mille pattes. Un insecte, c'est combien de pattes ?
4, 8.
Oh, 6.
6.
Donc un mille-pattes, c'est ce qu'on va appeler des myriapodes. Myria, ça vient de myriade, beaucoup, et pod, pied.
Qu'est-ce que des mollusques ?
Un mollusque, ça va être des animaux à corps mou.
Nous, dans la classe, on va bientôt avoir des phasmefeuilles, mais c'est des insectes, du coup.
Eh bien, vous répondrez à votre question vous-même, vous les regarderez, et vous vous posez la question, est-ce que ça a 6 pattes ? Est-ce que... Ça a 3 parties, tête, thorax, abdomen. Est-ce que ça a une paire d'antennes ? Et est-ce que ça a 2 paires d'ailes ? Vous poserez la question à vous-même et vous vous répondrez quand vous les aurez.
Les vers de terre font partie de quelle famille ?
Les annélidés. Annélidé, ça vient de anneau, annel, anneau. Parce qu'ils sont constitués, vous regarderez un ver de terre, je sais pas, vous en avez déjà pris en main. Vous sentez quand ça se déplace, c'est plein d'anneaux qui se suivent.
Le bousier, c'est un insecte ou un animal ?
Un insecte est un animal.
Oui, mais le bousier, c'est un insecte.
Le bousier est un coléoptère, donc c'est un insecte, oui.
Et vous l'avez dans la boîte, dans les boîtes ?
Bousier, c'est très vague. Bousier, nous, on imagine le scarabée qui va rouler ses crottes.
Aïe !
Il y a des espèces de mouches qui sont bousiers, par exemple.
Oui. Et est-ce que vous l'avez dans une de vos boîtes ?
Le bousier ? Je pense que j'en ai.
Oh yes.
Tous les insectes noirs que vous voyez là, ce sont des bousiers.
Alors t'en as.
En dessous, ce sont des sétoines.
Ils sont magnifiques.
Un bousier noir avec des points rouges, on appelle ça, c'est un mystère. C'est aussi un coléoptère bousier.
Vous en avez combien dans la boîte que vous venez de nous montrer ?
Une trentaine.
Vous avez à peu près combien d'insectes que vous avez récupérés ?
Dans mes boîtes de collection ?
Oui.
Je dirais entre 300 et 500 espèces.
Ok. Espèces ou...
Espèces.
La boîte que vous, de, que vous venez de nous montrer, les scarabées en dessous, qui c'était brillant, vous les trouvez où ?
En forêt.
Ceux que vous voyez en bas qui sont brillants, on appelle ça des sétoines.
Les sétoines, vous les trouvez
tout en dessous, la ligne du bas, ce sont les sétoines dorées. On les trouve en Sarthe. Au-dessus, celles qui sont bleutées, on appelle ça des sétoines tyréniennes. Celles-ci, elles viennent de Corse et du sud de la France. Et en dessous, il y en a des bleus, des noirs, etc. C'est une sous-espèce de la sétoine dorée. Et celle-ci, on la trouve... dans le sud de la France aussi et en Corse.
Et combien avez-vous d'insectes, pas par espèce, mais par eux-mêmes ? Combien d'espèces avez-vous au total ?
J'ai en général un couple par espèce.
Un couple par espèce ?
En général, je peux avoir 2-3 couples par espèce selon si l'espèce est commune ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai... entre 1000 et 1500 individus dans mes boîtes.
1000 et 1500, c'est énorme. Que mange le bousier ?
C'est lié dans son nom.
Bousier, la bouse.
Alors, il mange de la bouse. C'est surtout, en fait, on va l'appeler bousier car il va créer un nid, en général, sous les bouses. Il va enfouir justement des déjections et il va pondre ses œufs. Et c'est sa larve qui, elle, va manger la bouse. Voilà.
À quoi ils servent vos livres ?
Bonne question. Mes livres, ce sont des livres qu'on peut appeler des guides ou des clés de détermination. Avec ça, à l'intérieur... on a toutes des espèces. Là, j'ai ramené, par exemple, c'est tous les papillons de jour de France. Ça fait très longtemps que les insectes sont étudiés. Les papillons de jour de France sont faciles à observer. Et du coup, on a une idée de là où ils se trouvent. À peu près, on connaît leur répartition et on connaît les espèces. Et grâce à ça, on a pu faire des clés de détermination. Avec ce livre, on peut aller n'importe où en France. Dès qu'on trouve un papillon... on peut le déterminer.
Et à quoi il sert le deuxième livre, là ?
Eh ben, il y a tellement d'insectes, et vu que j'ai ramené surtout, c'est ce qui me passionne, j'ai ramené un livre sur les coléoptères. Ça, c'est juste une partie très, 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 très sommaire des coléoptères. En France, on a quelques milliers d'espèces de coléoptères, donc je peut pas tout y avoir dans un seul livre, sinon ce serait un livre qui ferait 3 mètres de haut. Donc là, c'est juste un petit guide de présentation des coléoptères, de tout ce qu'il peut y avoir. Voilà.
Quand vous trouvez des insectes, vous les trouvez à pleine main? Enfin, vous mettez des gants, vous y allez avec les mains naturelles?
J'utilise jamais de gants parce que c'est justement avec ça que je pourrais les blesser. Un insecte, je le prends dans mes mains uniquement quand je sais ce que c'est. Depuis le temps, je sais ce que c'est, je sais à peu près si le fait de le prendre dans la main, je risque de me faire piquer ou pas. Tous les coléoptères, etc., je les prends dans ma main. Les papillons, on évite de les manipuler. Un papillon, c'est très fragile, ça a des écailles microscopiques sur les ailes. Si on les touche, on peut leur enlever cette poudre. C'est comme une poudre. Et après, ils n'ont plus de couleur. Les abeilles, de plus en plus, je les prends dans ma main quand je sais ce que c'est. Selon la taille ou selon si c'est un mâle ou une femelle. Parce qu'encore une fois, les mâles ne piquent pas, les femelles piquent. Donc selon l'insecte que c'est, je vais le prendre dans ma main ou pas. Et quand je n'ai pas envie de le prendre dans ma main, je le mets dans une boîte. Là, je peux l'observer. Et une fois que j'ai fini de l'observer, de prendre des photos, je peux le relâcher.
Est-ce que les papillons, vous les prenez dans votre main ou pas? Parce que quand on touche un papillon, et ben l'aile, et ben elle s'abîme. Quand on touche l'aile du papillon, il l'a dit.
Avec quelques années d'entraînement, on peut prendre un papillon dans ses mains sans l'abîmer. Le fait de le toucher, effectivement, on va abîmer l'aile, mais on va pas le tuer. Le fait qu'il ait ça sur les, en fait, c'est on dirait une poudre. Et en fait, ce sont plein d'écailles microscopiques qui sont comme un toit, comme un poisson. Et ces couleurs-là, ça lui sert à être joli pour la reproduction et ça lui sert aussi à se protéger éventuellement des prédateurs.
Ça marche ou pas si le bousier vit dans une bouse qu'il se reproduise?
Il se reproduise exclusivement dans la bouse, parce que en fait il va soit enterrer sa bouse dans un terrier sous la bouse, soit il va l'emmener plus loin dans un terrier qu'il a déjà creusé, et là il va pouvoir pondre ses œufs dans la bouse pour que les larves s'en nourrissent.
Quand des insectes ils se reproduisent et que la femelle elle a des œufs, mais combien de temps avant de les pondre?
Ça dépend. C'est plus ou moins long. En général, c'est très rapide quand même. En général, elle a déjà des œufs qui se créent et ensuite le mâle vient féconder tout ça. Les œufs sont pondus après dans plein d'endroits différents, selon l'espèce. Les libellules, par exemple, vont pondre dans l'eau. Certains insectes, ça va être sous la terre, certains, ça va être sur des feuilles, d'autres, ça va être dans du bois, etc., etc.
Mais les boîtes que vous utilisez, elles sont petites et elles n'ont pas d'air. Comment vous faites pour mettre les insectes dedans?
Quelle boîte? Celle-ci, mes boîtes de terrain?
Ouais.
Il n'y a pas d'air parce que j'ouvre, je ferme et tout de suite, je peux les observer. C'est très rapide. Je les observe, je fais une photo et dès que j'ai fini, j'ouvre et ils s'en vont. Donc, il n'y a pas d'air, il y a suffisamment d'air pour un insecte. Oui, tout à l'heure, vous avez trouvé une coccinelle. C'est la coccinelle rose, elle s'appelle. Vous pouvez faire passer si vous voulez.
Ouais, on va faire passer si...
Elle est rose, c'est la coccinelle rose.
Mais elle est encore vivante?
Elle est encore vivante, elle fait la morte.
Ah, c'est comme le scarabée.
C'est toine dorée.
Les petits trucs qui se mettent en boule, là. Une sorte de petit insecte qui se met en boule et qui mange le bois. Et
ben, je sais pas.
Ça peut faire le mort et ben, se met en boule. Et c'est une sorte de petite carapace.
Oui, alors ce que tu es en train de me dire là, c'est pas des... qui se mettent en boule dans le bois, ce sont des cloportes.
Oui, ils se mettent en boule.
C'est des crustacés, c'est pas des insectes.
En fait, ils se mettent en boule pour pas mourir. En fait, se protéger avec cette petite.
Les bousiers aussi, ils le font eux-mêmes. Les bousiers, ils se mettent aussi en boule.
Non.
Ah. Bah, merci beaucoup, Constant, de nous avoir parlé, enfin, nous répondre à nos questions. Et merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir, merci à vous.